Filiale du groupe Banque Centrale Populaire vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bon début de semaine, merci d'être avec nous, l'antenne vous appartient, si vous habitez Kinshasa, vos témoignages nous intéressent car dans 30 minutes nous allons parler de l'opération coup de poing lancée la semaine dernière par le gouverneur de la capitale congolaise, Kinshasa, qui s'apprête à accueillir le pape François dans tout juste 2 semaines à partir du 31 janvier et pour l'occasion, les autorités veulent éradiquer les marchés pirates, détruire les kiosques de fortune, empêcher les gens de vendre à même le sol ou encore évacuer les décharges. Alors dites-nous, vous qui êtes sur place, si vous êtes convaincu par cette initiative. Kinshasa va-t-elle véritablement changer de visage ou s'agit-il d'un simple coup de balai? Vous réagissez, vous nous rejoignez, 33 9 693 693 70. Vous aurez la parole et vous continuez évidemment à poster vos témoignages et vos réactions sur nos réseaux sociaux et notamment la page Facebook RFI Appel sur l'actualité. Mais d'abord, durant les 20 prochaines minutes, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Et on va revenir sur le retour à Abidjan des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali pendant plus de 6 mois. Plusieurs d'entre vous ont des questions à nous poser. Soyez le bienvenu, Mamadou.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI, la radio qui nous parle chaque matin et qui nous donne la parole.
Effectivement, vous nous appelez de Guinée, vous êtes à Boké. Soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
Alassane Ouattara a déjà invité Assimi Goïta à Abidjan. La question est de savoir comment expliquer cette invitation après 6 mois de crise diplomatique et la condamnation des 49 soldats.
Oui, des soldats qui, rappelons-le, avaient été condamnés par la justice malienne à 20 ans de prison, notamment pour tentative d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Et les 3 soldates libérées en septembre avaient quant à elles été condamnées à la peine de mort par contumace. Bonjour Serge Daniel.
Juan, bonjour.
Correspondant régional de RFI, l'heure est donc désormais à l'apaisement entre Bamako et Abidjan. On se souvient encore des propos du président Ouattara lors de la cérémonie d'accueil des militaires. Maintenant que cette crise est derrière nous, nous pourrons reprendre des relations normales avec le Mali. Je comprends l'interrogation de Mamadou qui, comme de très nombreux auditeurs, ont suivi cette brouille diplomatique qui aura tout de même duré 6 mois entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Et Mamadou s'étonne de la rapidité avec laquelle le président Ouattara invite à Abidjan le président malien de la transition.
Alors, ouais, il faut quand même dire que cette invitation était dans les pipelines, si vous permettez l'expression, avant la grâce et la libération des 46 militaires ivoiriens. La Côte d'Ivoire, on se souvient, avait rejeté plusieurs moutures de mémorandum avant de signer le tout dernier. Et le document dans lequel les deux parties s'engagent sur papier à renforcer leurs relations. Alors, ce que voulait le gouvernement ivoirien, c'était de prendre un minimum d'engagement avant la libération de ces militaires et, une fois libérés, ce qui est désormais le cas, inviter le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, à Abidjan et mettre sur la table tous les sujets pouvant permettre de renforcer les relations entre les deux pays. Donc, c'est le but de cette invitation.
D'accord, voilà qui est clair. Mamadou, merci infiniment de nous avoir appelé de Boké. Reste avec nous Serge Daniel, on a encore une question évidemment sur le réchauffement des relations entre Bamako et Abidjan. Ange Rivas, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes dans la capitale économique ivoirienne.
Exactement.
Exactement, soyez le bienvenu, on vous écoute avec Serge Daniel.
Ok. Le président Alassane Ouattara a invité le président de la transition malienne à Abidjan pour une visite d'amitié. Mmh. Alors, à cela, j'ai deux questions. Assimi Goïta a-t-il réagi à cette invitation?
Alors, on va déjà répondre à cette première question, Serge Daniel. Que sait-on de cet entretien téléphonique qu'ont eu les deux hommes la semaine dernière?
Alors, ce qu'on sait, c'est que l'entretien téléphonique a eu lieu le 9 janvier, donc il y a une semaine. Et c'est une initiative du président ivoirien, précise une source proche de la présidence malienne. Ça s'est bien passé, explique la source malienne, sans trop de précision. Le colonel Assimi Goïta n'aurait pas dit non à l'invitation de se rendre à Abidjan, mais un de nos interlocuteurs maliens, c'est un officiel toujours, conseille d'attendre de voir si les deux pays vont rapidement convenir d'une date.
Oui, parce que pour l'instant, effectivement, aucune date n'a été annoncée. Serge Daniel, après la grâce présidentielle suivie de la libération des 46 militaires ivoiriens, le Togo, pays médiateur entre le Mali et la Côte d'Ivoire, a dépêché à Bamako son ministre des Affaires étrangères pour remercier les autorités maliennes. Mais on a vu que la Côte d'Ivoire n'avait pas adopté la même démarche. Sait-on pourquoi ?
Alors, c'est une bonne remarque. On ne sait pas pourquoi, Juan, la Côte d'Ivoire s'apprête-t-elle à dépêcher une délégation pour remercier de vive voix le colonel Assimi Goïta pour la grâce présidentielle. Mystère pour le moment, le Togo l'a fait. Pourtant, le Togo n'était que médiateur. Mais en langage diplomatique, ça veut probablement dire, ça a une signification, ça veut dire, allez, faisons encore un peu d'effort pour que nos relations soient très 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 bonnes.
Et Mamadou, pardon, Ange Rivas, vous disiez avoir deux questions, on vous écoute.
Oui, Juan. Les relations entre les deux pays restent fragiles. Quelles sont les deux mesures les deux dirigeants pourraient-ils prendre pour aller dans le sens du réchauffement?
Effectivement, c'est une bonne question. On essaye de réchauffer les relations. Concrètement, que peut-il se passer et sur quel sujet peut-il y avoir un réchauffement, Serge?
Mais c'est sûr, Juan, malgré la grâce, malgré la libération des militaires ivoiriens, les relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire attendent d'être renforcées, d'être consolidées. Peut-être qu'il y a un dernier tour de chauffe avant une éventuelle rencontre à Assimi Goïta à la scène Ouattara. Nous avons appris de bonnes sources, de très bonnes sources, maliennes notamment, que le ministère ivoirien des Affaires étrangères a pris contact avec Bamako, avec le ministère des Affaires étrangères du Mali, pour préparer une importante rencontre de la commission mixte de coopération Mali-Côte d'Ivoire. Ça pourrait, à mon avis, et selon des observateurs, ça pourrait être une étape dans le cadre du réchauffement des relations de pays voisins.
À suivre, donc, Ange Rivas, on a répondu à vos deux questions. Ange Rivas.
Oui.
On a répondu à vos questions.
Oui, Juan.
Super, merci, on n'avait pas ouvert le bon micro. Bonne journée à Abidjan, un grand merci à Serge Daniel, correspondant régional de RFI, il est 8h18, en temps universel. Vos questions, vous connaissez le principe, vous écoutez un journal sur RFI, vous souhaitez un complément d'information, eh bien vous nous appelez ou vous nous envoyez tout simplement vos questions sur les réseaux sociaux et on se fait un plaisir de vous avoir parmi nous en direct et de vous répondre bien évidemment. Bonjour Fidèle.
Bonjour.
À Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, des questions sur l'insécurité au Nigeria, avec en toile de fond l'élection présidentielle du 25 février.
Oui.
On vous écoute, Fidèle, allez-y.
Bon, moi, à mon sens, selon les enquêtes qu'on a lues sous les réseaux sociaux,
oui.
Le pays en proie à une violence insurrectionnelle djihadiste dans le nord-est.
Alors, attendez, excusez-moi. On a un petit problème pour vous entendre, Fidèle, et visiblement, vous-même, vous avez un problème avec votre téléphone portable, vous avez de l'écho. Je vais donc me faire le porte-parole de votre première question et on essaie de vous retrouver, évidemment, si jamais la liaison est meilleure dans quelques instants. Vous avez effectivement lu sur les réseaux sociaux et entendu sur RFI que face à l'insécurité persistante dans certaines régions du Nigeria, la commission électorale s'inquiétait de la bonne tenue des élections. Et c'est une bonne question, effectivement, puisque ce scrutin présidentielle est prévue le mois prochain. Marc-Antoine Pérouse de Monclos, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, spécialiste du Nigeria. Je cite votre dernier ouvrage, publié aux éditions Presse universitaire de France, « Un djihad sans foi ni loi » ou « La guerre contre le terrorisme à l'épreuve des réalités africaines ». La commission électorale du Nigeria a-t-elle raison de s'inquiéter pour le bon déroulement de l'élection présidentielle ?
Oui, indéniablement, le défi logistique est énorme déjà. Donc, c'est le pays le plus peuplé d'Afrique, bientôt le troisième du monde d'ici 2050. Donc ça veut dire déjà qu'il y a à gérer plus de 96 millions d'électeurs. 10 millions de plus que lors du dernier scrutin présidentiel en 2019. C'est déjà en soi un défi technique, vous pouvez bien l'imaginer, dans un pays qui est par ailleurs en proie à une crise économique, un défi technique absolument énorme. En plus de ça, il y a des zones du pays, notamment dans le nord-est où sévit le groupe Boko Haram, et dans le nord-ouest où il y a beaucoup de banditisme rural, il y a des zones où il y a tout lieu de penser qu'on ne pourra pas installer tout simplement de bureau de vote. Et donc là, la commission électorale fera sans doute, comme elle l'a fait lors des précédents scrutins, par exemple dans le Borno, qui est le fief de Boko Haram, ils avaient mis en place des bureaux de vote dans des camps déplacés. Donc, ça permettait de respecter la loi électorale en prétendant que les collectivités locales affectées par les conflits, eh bien, que la population déplacée allait voter en dehors de leur terroir original, mais que du coup, l'ensemble du territoire national était représenté dans le scrutin, même si effectivement, on ne pouvait pas installer des bureaux de vote dans les zones les plus compliquées d'accès.
Ouais, vous parlez de la guerre contre les djihadistes de Boko Haram dans le nord-est. Vous parliez également des conflits, de la criminalité, des conflits entre éleveurs et agriculteurs dans le nord-ouest. Il y a également des tensions séparatistes dans le sud du pays. Marc-Antoine Pérouse de Monclos, on a comme l'impression que l'insécurité les générales au Nigeria.
Oui, alors il y a aussi des problèmes dans le sud, mais ils ne sont pas exactement de même nature. Il n'y a pas ce problème d'accès qu'il peut y avoir dans des zones sahéliennes, rurales, très difficiles d'accès, notamment dans le nord-est, autour de la collectivité locale de Marté, vers la frontière du Niger, ou dans l'état de Sokoto, au nord-ouest. On n'est pas exactement dans le même genre de problématique. Donc dans le sud, là, en revanche, on a des problèmes qui tiennent à des assassinats politiques, des violences contre les membres de la commission électorale lorsqu'ils essayent de mettre en place justement les bureaux de vote ou aussi d'installer les urnes. Il y a déjà eu quelques attaques en ce sens, mais c'est d'une nature un petit peu différente de ce qui se passe dans le Nord.
Notre auditeur, et on ne parvient pas malheureusement à rétablir la liaison téléphonique avec Fidèle, mais il nous écoute évidemment, il nous dit la commission électorale indique qu'elle va mettre toutes les chances de son côté pour que les élections soient un succès. De quels moyens, quels sont les moyens déployés, Marc-Antoine Pérouse de Monclos?
Bon, il y a effectivement un souci, je le disais, d'ordre logistique. Organiser le vote de plus de 96 millions de personnes, c'est vraiment, dans un pays en pleine crise économique, un gros souci. C'est officiellement une commission indépendante, INEC, ça s'appelle, l'Independent National Electoral Commission, qui normalement est pourvue de fonds par le gouvernement fédéral pour mettre en place le dispositif du vote sans interférence politique. Le souci, c'est qu'il y a effectivement sur le terrain des pressions qui sont exercées sur les agents des commissions, de la commission électorale, qui vont parfois vers des violences. Donc il y a là, si vous voulez, une contradiction un peu entre les moyens que la commission dit pouvoir engager et la réalité du terrain, qui fait qu'effectivement on peut craindre que lors de ce scrutin, mais c'est la même chose lors des précédents, il y a des fraudes électorales, il y a des pressions, des intimidations des électeurs, et ça, clairement, la commission électorale n'en peut mais.
Ouais. Et la violence, elle risque de s'accentuer tout au long de la campagne électorale?
Il y a là beaucoup d'inconnus. Ce qu'il faut voir, c'est que les candidats qui se présentent, les deux principaux candidats, n'enthousiasment guère les foules. C'est des gens du sérail qui sont réputés très corrompus, donc on ne s'attend pas du tout à un changement de système de gouvernance. Contrairement à l'élection de 2015, lorsque Buhari avait été élu, il avait une réputation d'homme intègre. C'était la première fois depuis l'indépendance qu'on avait un changement de gouvernement autrement que par l'assassinat ou le coup d'État. Donc là, il y avait une vraie vague d'espoir. Il y avait une mobilisation électorale très forte. En réalité, ce qui risque de se passer là, c'est qu'il y aura un taux d'abstention très élevé. Il y a un outsider, un troisième candidat qui essaye de forcer le passage aussi, Peter Obi, qui est un Igbo originaire du Sud-Est, donc dans l'ex Biafra sécessionniste, mais qui en fait n'a pas le réseau national qui lui permettrait effectivement de menacer les deux principales candidatures du parti politique au pouvoir et de sa principale opposition au niveau parlementaire. Donc pour moi, il y a aussi un gros risque d'abstention électorale.
Marc-Antoine Pérouse de Monclos, merci infiniment d'avoir pris quelques minutes ce matin pour répondre à Fidèle, pour qui c'était d'ailleurs sa première intervention. Bon, finalement, ça n'a pas trop bien fonctionné. Mais Fidèle, n'hésitez pas, vous nous rappelez évidemment dès que vous avez d'autres questions et on se fera un plaisir de vous répondre. Marc-Antoine Pérouse de Monclos, directeur de recherche spécialiste du Nigeria. Il nous reste 5 minutes. Tiens, on va parler d'un sujet qui a suscité beaucoup de réactions la semaine dernière au standard d'appel sur l'actualité sur nos réseaux sociaux. On a d'ailleurs parlé dans l'émission de la hausse des prix du carburant dans plusieurs pays d'Afrique. Vous avez pu témoigner, nous raconter comment de plus en plus d'entre vous sont obligés de se serrer la ceinture face à la hausse des prix à la pompe. Ismaël, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue Ismaël, vous êtes en Guinée, vous avez des questions justement sur la hausse des prix du carburant.
Justement, le prix du carburant à la pompe augmente dans de nombreux pays africains. Comment expliquez-vous cette hausse du prix dans ces pays africains, y compris les pays producteurs ?
Y compris dans les pays producteurs, c'est une bonne question, effectivement ça semble paradoxal. Youmsi Bareja, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes expert en pétrole et mines, enseignant, chercheur à l'Université du Cap en Afrique du Sud. Expliquez-nous pourquoi des pays producteurs de pétrole sont obligés aujourd'hui d'augmenter les prix à la pompe.
Écoutez, c'est assez simple. Les raisons sont aujourd'hui beaucoup plus politiques. Parce que les effets de la guerre en Ukraine sont déjà passés. Et on a compris pourquoi aujourd'hui, au niveau de la pompe, les prix du carburant ne font qu'augmenter. Mais je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est politique. Vous savez, les prix du carburant à la pompe dans certains pays africains sont subventionnés. Et parfois lourdement subventionnés. Aujourd'hui, avec les exigences du FMI, ils sont regardants sur ce volet-là et demandent aux pays africains de revoir ces enveloppes de la subvention. Mmh. Et s'il faut revoir l'enveloppe, ça veut dire en conséquence que les prix vont augmenter à la pompe.
Donc, c'est une obligation, une demande express du Fonds monétaire international de revoir à la baisse les subventions sur le carburant, puisque oui, il faut quand même le rappeler, le carburant, certes, est cher, mais il continue d'être subventionné par les États. Mais ce sont des mesures impopulaires.
Effectivement, ce sont des mesures impopulaires, mais que faire ? Les caisses sont vides dans certains pays africains. Mmh. Les caisses sont vides, donc il faut faire quelque chose. Donc ça sera un peu du 50-50. Ils ne vont pas carrément abandonner la subvention, mais ils vont réduire significativement le montant alloué à la subvention. Et les usagers seront obligés de saigner. Ils sont déjà en train de faire comme ça parce qu'il y a des augmentations passées par là. Et bon voilà, ça sera encore un sacrifice de plus pour cette population qui est déjà essoufflée.
Oui, c'est un sacrifice de plus. Le FMI, par exemple, concernant le Congo-Brazzaville, qui annonce une augmentation de 5% hein, des prix à la pompe à la fin du mois, le FMI lui demande de revoir à la baisse de 50% la subvention du carburant. Donc c'était évidemment colossal. Et pour l'instant, le gouvernement congolais, le gouvernement de Brazzaville, se garde bien de respecter ou en tout cas d'appliquer à la lettre les consignes du Fonds monétaire international. Un mot tout de même, Youmsi Bareja, je profite de votre présence puisque vous êtes expert en pétrole et en mines. On voit que dans plusieurs pays, il y a des difficultés à s'approvisionner en essence. Comment peut-on l'expliquer ?
Oui, bon, vous savez, le business du fluel, c'est un business assez compliqué où il y a un peu de criminalité et de mafia. Ok, donc les gens profitent de l'occasion hein, pour pouvoir créer de la pénurie et ainsi pousser à la hausse les prix à la pompe.
Mmh. D'accord. Bon, le réseau télé, la liaison téléphone avec le Cap en Afrique du Sud n'était pas très bonne, Youmsi Bareja, mais en tout cas, merci infiniment. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur au Cap, à l'université, expert en pétrole et mines. Ismaël, on a répondu à votre question, vous y voyez un peu plus clair ?
Oui, le fait qu'il dit que les raisons sont beaucoup plus politiques qu'économiques, je crois qu'il faut se contenter de cela parce que tout est politique.
Oui, tout est politique, effectivement. Bon courage Ismaël et merci à vous de nous avoir appelés. D'autres questions demain et d'ici là vous continuez à nous rejoindre ici au standard 33 9 693 693 70. On va parler de l'opération coup de poing dans 10 minutes à Kinshasa lancée par le gouverneur de la capitale pour accueillir le pape François à partir du 31 janvier. Vous êtes sur place, vous avez certainement vu les forces de l'ordre éradiquer des marchés pirates, des détruire des kiosques, évacuer des décharges. Vos témoignages nous intéressent et dites-nous si cette opération est véritablement populaire.